Question de santé, le rendez-vous santé de Radio Aviva.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions de santé. À l'occasion d'Octobre Rose, nous allons aborder un sujet important, le dépistage du cancer du sein. Pour ce faire, je suis en compagnie du docteur Jean-Loup Chappert. Jean-Loup Chappert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de santé publique et médecin directeur au sein de Dépistage 34. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Dépistage 34 ?
Alors, Dépistage 34 est une association 1901 qui est la structure départementale qui décline sur le plan départemental la stratégie nationale du dépistage des cancers organisés, du dépistage organisé des cancers du sein et du côlon, et donc qui rend opérationnel le dépistage organisé dans l'Hérault.
Alors, vous êtes tout nouveau directeur, depuis quand ?
Ah, j'ai pris mes fonctions en début d'année 2018.
Ça fait une dizaine de mois maintenant.
Tout à fait.
Comment vous êtes arrivé au sein de cette association ?
Ah, bien, j'ai un parcours professionnel de médecin généraliste et puis ensuite un parcours de santé publique avec une expertise dans l'épidémiologie d'intervention, et j'avais envie de changer et de m'orienter sur la prévention. Et donc j'ai pris ce poste début d'année pour ces raisons-là.
Alors, ces choses faites, Dépistage 34, axe sur la prévention principalement. Quelles sont ces actions au quotidien, à l'année ?
Alors, Dépistage 34, c'est uniquement le dépistage organisé du cancer du sein et du côlon. Donc, c'est une petite partie de la prévention, puisque vous pouvez avoir de la prévention primaire, qui est celle dont on parle quand on veut éviter de voir survenir des pathologies, tandis que la prévention secondaire, qui est représentée par le dépistage, c'est lorsqu'on veut détecter des pathologies très, très tôt dans le cours de la maladie, pour pouvoir les traiter au plus vite.
Et combattre le cancer au plus vite. Est-ce qu'on a les taux, un petit peu, les chiffres du cancer en France, en général, hein, pas forcément que le cancer du sein ?
Alors, le cancer en France, c'est environ 400 000 nouveaux cas par an, donc c'est une maladie extrêmement fréquente, ça touche à peu près une famille sur trois. Et c'est une maladie, comme tout le monde sait, qui a quand même assez souvent un mauvais pronostic, puisqu'on recense environ 150 000 décès par an par cancer. Donc c'est une maladie qui est très fréquente et qui n'est pas rare, il faut vraiment s'en souvenir.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la maladie du siècle, le cancer ?
Eh bien, c'est une maladie, on peut le dire, oui, c'est une maladie du siècle, parce que c'est tout de même la première cause de mortalité, et c'est la deuxième chez la femme, c'est la première chez l'homme. Donc oui, c'est quand même une maladie, on peut qualifier ça de maladie du siècle.
Est-ce que les taux de cancer, vous avez vu, vous, les taux de cancer augmenter ou plutôt diminuer ?
Alors, ça dépend des cancers. Si je me réfère à ce que je connais le mieux, qui est le cancer du sein, ça diminue légèrement. Le cancer du côlon également, ça diminue légèrement. Mais enfin, ça ne diminue pas encore dans des proportions énormes. Ce qui diminue plus en général depuis quelques années, c'est la mortalité qui est associée à ces cancers. Parce qu'il y a d'une part les progrès thérapeutiques qui font qu'on les traite mieux, avec plus d'efficacité. Et d'autre part, c'est l'avantage du dépistage précoce qui permet finalement d'améliorer les chances de survie, puisqu'on les détecte quand ils sont à un stade de plus petit.
Un stade, il y a plusieurs stades hein, dans le cancer, il y a quatre stades il me semble.
Alors ça, oui, on globalement, c'était très, très général, des cancers in situ qui sont très très localisés, qui ont le meilleur pronostic. Il peut y avoir des cancers infiltrants qui dépassent les couches, différentes couches successives des cellules, qui commencent à infiltrer, qui commencent à avoir un moins bon pronostic. Ensuite, on peut avoir une extension régionale avec des ganglions qui sont atteints par le cancer, et puis on peut avoir une extension beaucoup plus loin que régionale, et qu'on appelle métastase, qui sont des extensions du cancer dans d'autres organes. Donc c'est schématique, c'est très très schématique, ces quatre classifications. Il y a des classifications plus techniques qui permettent ensuite aux spécialistes d'adapter leur stratégie de traitement en fonction du stade.
Est-ce qu'en France, on serait capable de dire quels sont les cancers les plus récurrents ?
Eh bien... Les plus fréquents, le cancer du sein chez la femme, par exemple, c'est le premier cancer de la femme. Le cancer du poumon, c'est le premier cancer chez l'homme. Ensuite, il y a la prostate chez l'homme et ensuite, il y a le côlon. Et le cancer du côlon, c'est le deuxième cancer de la femme. Donc, vous voyez, c'est à peu près ceux-là qui sont les plus préoccupants en termes de fréquence.
On est capable d'expliquer ces chiffres, pourquoi les hommes sont plus touchés par les poumons, par exemple?
Alors ça, c'est plutôt lié, comme le facteur de risque principal du poumon, c'est le tabac. On sait bien que dans le passé, et que le temps de latence d'un cancer entre l'exposition au tabac et le début du cancer est de 10, 15 à 20 ans, c'est lié aux habitudes anciennes où les hommes fumaient plus que les femmes. Et donc ce qui se passe maintenant avec les femmes qui commencent à fumer beaucoup plus, on voit actuellement une diminution du cancer du poumon chez l'homme et on est toujours sous l'effet d'une augmentation du cancer du poumon chez la femme à cause de ce temps de latence de 20 ans et de ces habitudes que les femmes ont prises plus fréquemment.
Alors, docteur Chappert, je vous remercie. On va partir un peu plus tard sur la deuxième partie de notre émission. En attendant, on se laisse avec, on se quitte avec une pause musicale.
Aviva, tu te souviens, les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes, je rembobine, tu te souviens, tous ces rêves pleins nos disquettes, à Paris c'était les States. 1987. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Il y a certains jours dans lesquels je me jette et je suis de retour en 1987. Sur 7, dans la cuisine c'était rien, que 12 mois sur la planète, l'URSS in excess, on chantait I want your sex. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987.
Bienvenue dans ce numéro de questions de santé. Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie du docteur Chappert, venu de nous parler du dépistage du cancer du sein. Alors, en première partie de cette émission, nous parlions des cancers en général. Là, on va peut-être axer un peu plus, particulièrement sur le cancer du sein, à l'occasion d'Octobre Rose, qui se déroule là tout le mois d'octobre. Alors, est-ce que vous avez quelques chiffres sur le cancer du sein en France ? Nous les rappeler peut-être ?
Alors, le cancer du sein, c'est effectivement le premier cancer chez la femme. Et on recense environ 59 000 nouveaux cas par an du cancer du sein. Qui se traduisent malheureusement également par 12 000 décès par an. Donc, c'est une cause de mortalité importante. Le cancer du sein diminue, l'incidence du cancer du sein, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas diminue légèrement chaque année, mais ça reste quand même une pathologie qui a une importance de santé publique très très marquée.
Comment on explique ce cancer ? Quels sont les facteurs ? Qu'est-ce qui déclenche un cancer ? On a le facteur génétique, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres ?
Alors, oui, dans les facteurs de risque, qu'on appelle les facteurs de risque des cancers, il y a ceux qui sont liés à la génétique. On peut avoir des antécédents familiaux ou des antécédents personnels qui classent les femmes dans un risque supérieur d'avoir un cancer du sein. Par exemple, un cancer de l'ovaire ou un cancer du sein antérieur vous fait passer dans une catégorie plus à risque d'avoir un cancer du sein. Des antécédents familiaux, c'est-à-dire dans la famille directe, la mère, la sœur, la fille, vous fait également passer dans une catégorie plus importante de survenue de cancer du sein. Et puis, il y a aussi ces mutations génétiques qui sont connues, BRCA1, BRCA2, qui se transmettent de génération en génération et qui vous fait passer dans une catégorie beaucoup plus élevée. Ces personnes-là, elles ne rentrent pas dans le dépistage organisé, elles doivent faire l'objet d'une surveillance très particulière. Et puis, il y a également tous les facteurs de risque qui sont liés au mode de vie. On sait maintenant que le tabac est un facteur de risque du cancer du sein. On sait également que l'alcool est un facteur de risque du cancer du sein. Et l'alcool, on n'a pas de seuil pour déterminer à quel moment, à quelle quantité ça va déclencher un risque. Le risque, il est même pour des faibles doses. On sait qu'une activité physique insuffisante est également un facteur de risque du cancer du sein.
Le stress, le mal du siècle aussi, est-ce que ça peut provoquer des cancers ?
Alors en
enfin,
théorie,
du sein, pour le coup.
On n'a pas d'études qui nous le démontrent. On pourrait toujours imaginer sur le plan théorique que le stress, ça génère parfois, quand il est prolongé, ça pourrait provoquer une espèce d'immunodépression modérée qui pourrait effectivement derrière favoriser la survenue du cancer, mais rien ne le démontre.
Les sels aluminium dans les déodorants.
Alors oui, c'est une hypothèse.
Ça a fait polémique pendant quelques temps.
C'est une hypothèse qui a été évoquée, mais là non plus, il n'y a aucune étude qui a démontré qu'il pouvait être responsable de générer des cancers du sein.
Et le cancer, la grossesse, je voulais dire, l'allaitement, alors il paraît que ce n'est pas bon de ne pas faire allaiter ou l'inverse.
Alors l'allaitement est un facteur protecteur, effectivement, de la survenue d'un cancer du sein. On a plus de risques d'avoir un cancer du sein si on n'allait pas que si on allait. Oui, effectivement.
Comment on peut expliquer ça ?
Écoutez, on fait des études observationnelles, donc on voit. On peut voir ce qui se passe, on ne peut pas toujours expliquer, il n'est pas impossible qu'il y ait des facteurs hormonaux qui soient impliqués dedans.
Quelles sont les femmes, les tranches d'âge les plus touchées par le cancer du sein ?
Alors, le cancer du sein, on a 80% des cancers du sein surviennent après 50 ans. C'est pour cette raison que le dépistage organisé s'applique à cette catégorie d'âge.
Mais pas que. Il y a aussi des jeunes femmes qui peuvent être atteintes
du cancer. Tout à fait. Des jeunes femmes ou des femmes entre 40 et 50 ans peuvent aussi être atteintes de ce cancer. Alors là, on n'est pas sur du dépistage organisé, mais on est sur, d'une part, des recommandations qui sont la palpation annuelle dès 25 ans par le médecin. Et puis l'autopalpation tous les mois par la femme.
L'autopalpation, ça s'apprend comment c'est...
Alors oui, je pense que ça s'apprend beaucoup mieux avec un professionnel de santé. Il n'y a pas nécessairement de méthode en particulière. Je pense qu'il faut surtout aller sur toutes les zones du sein. Et non, il n'y a pas d'apprentissage particulier.
Oui, de connaître un peu et sentir, voir, appréhender si on sent une boule ou quelque chose.
Voilà, il faut que les femmes apprennent à connaître leur sein et sachent reconnaître une différence, quelque chose qui survient.
Docteur Chaper, je vous remercie. On va passer à la troisième partie de notre émission sur le dépistage, le cœur de vos actions. On se retrouve après une petite pause musicale.
When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you. You're facing down a dark hall, I'll grab my light and go with you. I'll 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 go with you. Surrounded and up against the wall, I'll shred them all and go with you. When choices end, you must defend, I'll grab my back and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. Yeah. End of your driveway, they're calling for your head and they're calling for your name. I bomb down on them, I'm coming through. Do they know I was grown with you? If they hit a smoke, no, I'll go with you. Just keep it outside, keep it outside, yeah. If you find yourself in a lion's den, I'll jump right in and pull my pin and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Aviva. Pour rappel, nous sommes en présence du docteur Chaper, venu nous parler du dépistage du cancer du sein à l'occasion de d'Octobre Rose. Alors, docteur Chaper, en première partie, nous parlions des cancers en général. En deuxième partie, un petit peu le cancer du sein, comment il se déclenche, quelles sont les femmes les plus susceptibles et en fonction du mode de vie. Et enfin, la troisième partie, le dépistage. C'est quand même... le plus gros du travail déjà de votre association Dépistage 34?
Oui, le dépistage devant un problème de santé publique aussi important, c'est la réponse la plus efficace actuellement vis-à-vis du cancer du sein. Donc c'est une stratégie qui vise, nous, pour le dépistage organisé, les femmes de 50 à 74 ans qui n'ont d'autres facteurs de risque que leur âge. Hein, et donc ça correspond à 80% de la population féminine des 50 à 74 ans. Les 20% restants sont des femmes qui ont des niveaux de risque de survenue du cancer du sein plus élevés et donc qui sont surveillées, prises en charge de manière plus personnalisée par leur médecin.
Par leur médecin traitant,
par leur médecin traitant ou leur gynécologue.
Alors, on dit de 50 à 74 ans, il faut faire le dépistage tous les deux ans et après 74 ans. Est-ce qu'il y a moins de risques ? Du coup, il y a moins de dépistage.
Alors, après 74 ans, il ne s'agit pas d'oublier le dépistage. Le risque existe toujours et le risque n'est pas moindre, mais souvent, il y a ce qu'on appelle des comorbidités, d'autres pathologies associées. Et donc, il revient finalement au médecin de faire une évaluation bénéfice-risque pour chaque patient. Parce que vous pouvez avoir une patiente qui a d'autres pathologies très très lourdes et à qui finalement le dépistage du cancer du sein ne va pas profiter tant que ça au regard de ce qu'elle a déjà comme pathologie. Donc ça, c'est une évaluation bénéfice-risque qui doit être faite avec son propre médecin.
Alors, dépistage 34, on peut se faire dépister chez vous? Comment ça se passe en fait? Vous menez juste des actions de prévention?
Alors nous, comment ça se passe? Nous, notre mission, c'est d'envoyer les invitations à ces femmes de 50 à 74 ans tous les deux ans, d'envoyer les relances. Donc nous ne sommes pas un centre de radiologie. On invite ces femmes à consulter un radiologue dans un cabinet de radiologie. Donc nous adressons avec l'invitation la liste des radiologues agréés dans l'Hérault et nous adressons également le calendrier du Mamobile qui peut passer à proximité dans une de leurs villes. Donc elles vont se présenter pour leur mammographie dans un de ces centres libéraux ou même hospitaliers ou le Mamobile. La lecture y est faite, la première lecture y est faite par un radiologue. Ensuite, nous recevons les clichés et dans nos locaux, nous organisons la deuxième lecture avec un autre radiologue. Et c'est ça qui garantit une meilleure qualité puisqu'on détecte des cancers. On a une meilleure détection de cancer en ayant deux lectures par deux radiologues différents.
Voilà, deux diagnostics du coup qui sont posés.
Alors c'est un seul diagnostic qui est posé, c'est-à-dire que les mammographies qui vont révéler une anomalie en première lecture ne seront pas relues. Mais les mammographies qui ne verront pas d'anomalie en première lecture seront elles relues. Et parfois on découvre une anomalie à la deuxième.
Alors, la question clé, est-ce que la mammographie, ça fait mal?
Alors, la mammographie,
comment on fait une mammographie et est-ce que c'est douloureux?
Alors, ça peut être un peu douloureux, c'est surtout très inconfortable et très désagréable, mais en général, ça n'est pas douloureux. Et donc, c'est un appareil où on comprime le sein, effectivement, et ensuite, on fait une radiographie classique. Ça ne dure pas très très longtemps, tout de même. Donc c'est pas très compliqué quand même, même si c'est un peu inconfortable.
Et on a les résultats rapidement ?
Alors, en raison des deux lectures, vous avez à la première lecture un résultat qui vous est donné de manière temporaire, en précisant bien qu'il y a une deuxième lecture derrière. Et on va dire 8 à 12 jours après, c'est Dépistage 34 qui envoie à la patiente le résultat avec les clichés, donc 8-12 jours.
Alors si je veux faire une mammographie, je passe par Dépistage 34 et c'est gratuit, c'est ça
Alors non, c'est vous recevez l'invitation. Mais vous pouvez également aller prendre rendez-vous chez le radiologue et lui va vérifier sur notre serveur si vous êtes éligible ou pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait de radiographie depuis plus de deux ans, il va vous intégrer. Et à condition aussi que nous, on ne vous ait pas rayé de la liste en quelque sorte, si on a considéré que vous aviez un facteur de risque et que vous étiez suivi par un médecin.
Octobre Rose, est-ce qu'on peut en dire deux mots sur cette opération, comment elle est née et les répercussions et les bénéfices pour le dépistage ?
Alors Octobre Rose, dont c'est une campagne nationale qui existe depuis de nombreuses années, mais qui est relayée sur l'Hérault, en tout cas cette année par le collectif Octobre Rose, qui est un collectif d'associations qui œuvre dans le cancer du sein. Nous avons toute une série d'actions qui sont menées événementielles au cours du mois d'octobre. On n'est pas très certain qu'on n'a pas vu, en tout cas juste derrière, des changements dans les taux de participation, mais ça nous paraît essentiel de le faire, car si nous ne le faisions pas, ce serait quelque chose qui manquerait de toute façon, puisqu'il faut bien parler du dépistage, il faut aussi donner de la visibilité à Dépistage 34 comme mode opératoire dans l'entrée au dépistage.
Alors, on parle du dépistage et on parlait aussi de la Mammobile. On peut peut-être donner quelques dates. La Mammobile sera à Montpellier samedi 6 octobre de 10h à 17h sur la place de la Comédie au 7 boulevard Victor Hugo à Montpellier. Et ensuite, les 3, 6, 10 et 17 octobre avec MHDCS, Mammobile, ICM, Institut du cancer de Montpellier, la Montpellier-Rennes et 12 autres personnes. Tout au long du mois d'octobre, il y aura des actions comme ça qu'on peut retrouver.
Tout à fait. Le collectif Mammobile, le collectif Octobre Rose sera présent à la gare Saint-Roch entre le 8 et le 12 octobre et assurera aussi des stands dans la rue de la Loge assez régulièrement et aussi participera à des lancements de matchs de foot, de rugby et de hand. Donc toutes les associations qui constituent le collectif participeront à un moment donné ou à un autre à ces stands. Et le Mammobile, pour préciser, sera le samedi 6 octobre sur la place de la Comédie, mais pas pour fonctionner, mais pour être visité et pour donner des informations.
Ah, on ne pourra pas faire de mammographie à ce moment-là sur la Comédie.
Non, là, ce sera juste pour le voir.
Docteur Chappert, merci beaucoup pour cette émission, pour votre présence et pour avoir pris le temps de nous avoir parlé du dépistage 34, du dépistage en général et du cancer du sein. On rappelle à nos auditeurs qu'il est possible de retrouver toutes les informations sur dépistage 34 sur le site internet www.dépistage34.com, puis sur les réseaux sociaux dépistage 34 où on peut retrouver un petit peu l'actualité, c'est ça de...
Oui, les actions Octobre Rose seront relayées sur nos réseaux sociaux.
Voilà, alors pour toutes les informations, faut se rendre sur internet.
Absolument.
Dépistage 34. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous souhaite une excellente journée sur les ondes positives de Radio Aviva.
Question de santé. Le rendez-vous santé de Radio Aviva.